Bonjour et bienvenue sur Plan B. Aujourd'hui, on a un grand groupe qui va intervenir sur le sujet des énergies renouvelables et en particulier celui de la flexibilité. Donc la flexibilité étant la principale réponse à la variabilité des énergies renouvelables. On va parler de flexibilité de l'offre, de flexibilité de la demande, de flexibilité intrajournalière, de flexibilité intersaisonnière ou interannuelle. On va parler d'interconnexion. On va parler de pilotage de l'eau chaude sanitaire, on va parler de V2G, on va parler d'électrolyseurs, de batteries et de STEP. Si vous ne comprenez pas grand-chose à ce que je viens de dire, ne vous inquiétez pas, d'ici une heure, ce sera beaucoup plus clair. Si vous connaissez déjà assez bien ces sujets, restez quand même en ligne. Nous allons essayer de partager l'état de l'art le plus récent, car nous sommes en compagnie de quatre personnes qui sont professionnelles du domaine et qui vivent ces sujets-là au quotidien, qui s'en documentent au quotidien. On a Karim Megherbi. Bonjour Karim. Karim, tu es conseiller auprès de gouvernements et d'entreprises sur leur stratégie de déploiement d'énergie renouvelable. Tu as fondé une plateforme d'origination de projets d'énergie renouvelable. En d'autres termes, tu fais émerger des parcs solaires et des parcs éoliens un peu partout dans le monde. Vincent Maillard. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Tu as un long parcours, tu es entre autres passé chez EDF aux affaires réglementaires, tu y as aussi été directeur des tarifs. En 2016, tu as cofondé Plume Energy, fournisseur d'électricité bas carbone, et tu es aujourd'hui toujours patron de cette PME de 70 salariés qui marche bien, félicitations, et PME qui a récemment rejoint le groupe international Octopus Energy. Philippe Gauthier, bonjour Philippe.
Bonjour.
Tu es également un vieux de la veille, tu es rédacteur et traducteur d'articles sur l'énergie et l'environnement depuis une trentaine d'années, tu es aussi chercheur en redirection écologique. Par exemple, tu as récemment rédigé un manuel de redirection écologique adapté au contexte des entreprises québécoises. D'ailleurs, tu nous viens du Québec. On peut visiter ton blog énergie-et-environnement.com. Et enfin, Damien Salel. Bonjour Damien.
Bonjour.
Tu es le Benjamin de la bande, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années, écrivait Corneille dans le Cid. Damien, tu es expert en photovoltaïque et intégration des énergies renouvelables au réseau. Tu travailles actuellement pour l'association ESPUL, où tu fournis de l'information et tu rédiges des rapports sur le photovoltaïque, sur l'état du photovoltaïque en France. Tu participes aussi à des instances de concertation de la filière. Tu accompagnes des producteurs photovoltaïques sur la thématique du raccordement. Merci beaucoup, messieurs. Je regrette qu'il n'y ait pas de dames, mais c'est comme ça, on n'a pas fait ça exprès. Je ne sais pas, Paris, qui commençait? Ce qu'on va faire, c'est chacun va prendre, je ne sais pas, 6-7 minutes pour donner un point de vue assez librement sur le sujet de la flexibilité. Et puis on fait tourner comme ça, et puis après, on fera des prises de parole un peu plus courtes. Écoutez, je vais commencer dans le sens de mon écran avec Vincent Maillard, si tu veux bien.
Ah, je ne m'attendais pas à parler en premier, mais on va y aller. Je pense que la première chose, c'est que la flexibilité, ça correspond. Le débat vient aujourd'hui parce que le modèle économique de l'énergie et de l'électricité en particulier s'inverse. Le modèle traditionnel de l'électricité, c'est vous consommez, vous appuyez sur votre prise de courant, vous branchez un radiateur, vous faites n'importe quoi, et quelque part, il y a une centrale de production qui s'adapte, qui produit un peu plus ou qui produit un peu moins selon que vous allumez ou vous éteignez votre appareil. Ça, c'est le modèle traditionnel. Ce qui s'inverse aujourd'hui, puisque de plus on insère d'énergie renouvelable, plus le sujet, c'est de faire en sorte que les clients consomment au moment où ça produit, plutôt qu'on ne produise au moment où les clients consomment. Ça, c'est la raison pour laquelle le débat arrive. Par derrière, les gens disent c'est une complète révolution. Non, pas totalement. Parce que l'équilibrage entre la demande et la consommation, c'est une vieille histoire. Et il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites auparavant pour rassembler les deux. On avait des centrales hydrauliques qui permettent de stocker l'énergie. On avait fait des modulations par les clients. En France, historiquement, on a énormément développé les effacements, les offres dites JP, etc., qui existaient historiquement depuis très longtemps chez EDF, dont j'ai fait partie et dont j'ai toujours été un grand défenseur. On a fait de la modulation hors plein hors creuse, donc on a poussé les gens à consommer pendant la nuit parce qu'on avait la production nucléaire qui était disponible et qu'il fallait inciter les gens à consommer. Donc, on a développé de l'eau chaude sanitaire. Donc, on a déjà fait de la flexibilité. D'ailleurs, c'est intéressant le cas de l'eau chaude parce qu'on a fait une flexibilité où on a poussé les gens à consommer pendant la nuit, alors que ce n'était pas leur rythme naturel de consommation. Et aujourd'hui, on en vient à dire, mais attendez, c'est quand même dommage, le solaire ne permet pas de produire la nuit. Ben non, mais d'une certaine manière, pour certains usages, c'est plus adapté. C'est plus adapté d'avoir une production qui est là, un peu plus présente quand les gens consomment plus. Donc, cette flexibilité, ce n'est pas un sujet complètement nouveau, mais le développement et le besoin de développer encore plus les usages d'électricité, l'insertion des énergies renouvelables, impose d'une certaine manière de revoir les choses différemment, de voir d'autres moyens de flexibilité, mais on a déjà une boîte à outils qui existe. Donc je laisserai bien la parole à quelqu'un d'autre après pour rebondir un peu sur le sujet, parce que les boîtes à outils, elles sont autour de choses qui étaient traditionnellement présentes, c'est l'hydraulique, c'est de nouvelles hydrauliques, c'est de nouveaux moyens de connecter les vallées et d'avoir une capacité à produire au moment où il y a pas de vent, pas de soleil et on a quand même de la demande, ou de stocker quand on a au contraire trop de soleil, trop de vent et que la demande elle est plus faible. Donc ça, c'est des moyens qui sont traditionnels, mais aussi on va avoir des nouveaux moyens qui vont arriver avec les nouveaux usages. Le cas le plus emblématique est évidemment celui du véhicule électrique. Le véhicule électrique, eh ben, demain, ça serait peut-être plus intelligent de le recharger pendant qu'il y a du soleil que pendant la nuit, parce qu'on avait pensé de tout temps qu'il fallait consommer la nuit. Ben, on rechargera la voiture quand on aura de l'électricité. Et comme la voiture, non seulement elle permettra d'être chargée à certains moments, mais en plus elle permettra d'être déchargée. On est sur un modèle de ce qu'on appelle les véhicules to grid, c'est-à-dire que la voiture, vous pourrez la brancher et elle pourra finalement stocker et déstocker de l'électricité qui sera mise à disposition sur le réseau. Il y a des tas d'autres moyens de stockage indirect chez les clients. Bah, il y a aussi l'eau chaude, hein, pour parler d'un cas simple. L'eau chaude aujourd'hui en France, elle est produite la nuit dans des ballons. Ce n'est pas forcément le cas dans tous les pays, hein. Philippe pourra dire comment ça se passe au Québec, au Royaume-Uni, ça se passe différemment. Mais en France, parce qu'on avait cette spécificité du nucléaire, on a beaucoup poussé les gens à consommer et à stocker de l'énergie finale, contrairement au fond de l'eau chaude, chez eux pendant la nuit. Bah, demain, effectivement, on pourra se dire l'eau chaude, elle pourra être directement chauffée par le soleil, soit par du thermique direct, soit tout simplement en utilisant du photovoltaïque et en utilisant une pompe à chaleur qui fera chauffer l'eau. Donc tout ça, c'est des changements. Ce qui est intéressant de noter, c'est que, alors c'est un peu peut-être faire des maths, mais que parfois quand on inverse, on a un double gain. Parce que quand on fait de l'eau chaude qu'on va produire plutôt pendant le jour, on va déjà gagner parce qu'on aura moins produit la nuit, puis ensuite on va avoir la seconde tour où on va produire plus le jour. En fait, d'une certaine manière, on a un double dividende à ce changement parce on va devoir l'inverser, donc on va regagner l'inversion, ensuite on va aller dans l'autre sens qui consiste à produire plus pendant la journée. Donc tous ces moyens, on les étudie, tout le monde y réfléchit, RTE y réfléchit, etc. Aujourd'hui, on a suffisamment de flexibilité dans tous les pays européens, dans tous les pays au monde pour assurer la capacité à faire la flexibilité des renouvelables. À ma connaissance, mais je parlerai, les autres me contrediront, personne dans le monde n'a jamais été coupé parce qu'il n'y avait pas assez de vent ou pas assez de soleil à un moment donné. La question, c'est d'aller plus loin au fur et à mesure qu'on insérera des énergies renouvelables.
Merci Vincent. Pour revenir sur deux points avant de poursuivre avec, je crois, au hasard, on va dire Karim. Effectivement, la flexibilité, c'est rien de, quelque part, c'est rien de nouveau dans le sens où la demande a toujours été variable. Elle est très différente entre les heures pleines de jour et les heures creuses de la nuit. Elle est différente entre l'hiver et l'été. Donc là, on se rajoute effectivement une nouvelle couche de nécessité de flexibilité avec la pénétration croissante de sources d'énergie variables, donc principalement le vent et le soleil. Sur les moyens de flexibilité, on va continuer à faire le tour aussi. Juste, effectivement, les chiffres, voilà, c'est de l'ordre de quasiment un quart de l'électricité en Union européenne, qui est quand même une grosse région et un gros système. Donc, un quart de cette électricité actuellement qui provient de l'éolien et du solaire. Et comme tu le dis, effectivement, on n'a pas repoussé d'opération chirurgicale faute de soleil ou que sais-je. Et pour le moment, on ne se sent pas être au bord du gouffre, comme quoi il serait impossible d'aller jusqu'à 30%, par exemple. Bon. Mais on va poursuivre avec ça. Karim, est-ce que tu veux poursuivre?
Ok, merci, oui. Écoute, peut-être un petit peu pour donner un autre angle de vue aussi, peut-être la flexibilité, elle s'analyse avec le temps. Parce que souvent, on s'imagine en fait un réseau tel qu'il est actuellement, et puis on dit, ben, imaginons que tout ça disparaisse, comment on va gérer notre flexibilité? Et en fait, la flexibilité, elle évolue avec le taux de pénétration, le besoin en flexibilité évolue avec le taux de pénétration des énergies renouvelables. Et le taux de pénétration des énergies renouvelables aussi fait évoluer le réseau, c'est-à-dire tout ce qui est réseau de distribution, réseau de transport, les outils connectés qu'on va avoir chez soi, etc. Et donc, et également les interconnexions, c'est-à-dire que le réseau européen est différent, sera différent en 2030, 2035, 2040, etc. Et donc,
Pour
qu'est-ce que ça
donner
veut
une
dire un
idée,
réseau?
2035, il y aura deux fois plus d'interconnexions qu'aujourd'hui, ce qui
Voilà.
permettra, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, aux pays, notamment frontaliers, d'échanger plus d'électricité selon les besoins. Enfin, s'il y a beaucoup de vent dans tel pays et peu dans l'autre, celui qui a beaucoup de vent à un instant donné peut exporter de l'électricité à l'autre, par exemple. Hein, c'est l'idée.
Voilà, il y a par exemple, on sait qu'il y a un nœud au niveau de l'Espagne, par exemple, hein, entre l'Espagne et la France, il y a une interconnexion qui est assez faible et depuis longtemps on essaie de la débloquer. Et là, aujourd'hui, ça va se débloquer, donc on va avoir plus d'interconnexion avec l'Espagne et avec la péninsule ibérique, ce qui veut dire qu'on va désenclaver en fait une région en Europe où il y a beaucoup de soleil, d'accord, qui est notre région quasiment la plus ensoleillée, et mais également aussi du vent, hein, qui a un fort potentiel de vent. Mais on va aller même au-delà de ça, puisqu'il y a des accords avec la Tunisie, il y a des accords avec, donc là, ça a été signé récemment, il y a des accords avec le Maroc, et donc on va étendre en fait notre plateforme européenne. Et donc, qu'est-ce qu'on va chercher en étendant la plateforme européenne? On va chercher à la fois des climats qui sont un peu différents, d'accord, des demandes qui sont différentes parfois, et puis aussi des outils de production et de stockage qui sont différents. Par exemple, on a cette interconnexion entre l'Angleterre et puis la Norvège. Qu'est-ce qu'elle va faire cette interconnexion? Eh bien, l'Angleterre, elle va avoir de l'éolien offshore, beaucoup, encore. Et puis la Norvège, elle a des batteries en fait, hein, gigantesques qu'on appelle hydrauliques. Et donc, il va y avoir une gestion en fait optimisée quelque part, hein, d'un parc qui va être étendu sur plusieurs pays. Et ça, il faut le raisonner en termes européens. Il faut raisonner avec le temps. Et le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'éolien offshore qui arrive sur la façade maritime au nord. Ça veut dire, donc, comme je l'ai dit, c'est l'interconnexion avec la péninsule, etc. Donc ça, il faut, premièrement, la flexibilité, il faut la raisonner dans le temps, dans un cadre, dans un contexte technique et de réseau qui, lui, évolue aussi avec le temps. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Bon, la deuxième chose, c'est que la flexibilité, elle porte sur différents données temporelles. Hein. On a du journalier, on a du mensuel, on a du saisonnier, etc. Et donc sur ces outils, les outils, bien, vont dépendre du temps pour lequel, enfin, qu'on veut couvrir en fait, du besoin qu'on veut couvrir. Alors je vais donner un exemple parce que souvent on dit finalement on associe beaucoup la flexibilité à la batterie. Je sais pas pourquoi. Dès qu'on pense à la flexibilité, on pense à batterie. Hein, donc on se dit voilà, il faut beaucoup de flexibilité, donc il faut beaucoup de batterie. Mais c'est étrange parce qu'en fait c'est pas tant la batterie, hein, la flexibilité dans un monde en énergie renouvelable. D'ailleurs, en fait, le but, d'ailleurs, c'est un peu de minimiser ça parce que ça va coûter cher, ça consomme des métaux, on n'a pas trop envie, hein, de dupliquer, en fait, enfin, d'étendre comme ça ces équipements. C'est pas du tout la logique d'un réseau à des énergies renouvelables. Et donc, au contraire, ce qui va être recherché, c'est plutôt, comme l'avait dit Vincent, la relation, en fait, entre l'offre et la demande. C'est vraiment ça qui va être recherché au travers de la flexibilité. Et donc ça, c'est les premiers jeux en fait hein, de flexibilité. La batterie, elle arrive. D'ailleurs, il y a eu récemment une interview là du président Newen que j'ai trouvé très bien, qui est Newen qui se développe en Australie et donc qui eux ont beaucoup de batteries hein, en Australie. Donc ils développent, je crois qu'ils ont l'équivalent de 1 térawattheure maintenant. J'ai regardé, donc quasiment 1 térawattheure en énergie. Hein, c'est quasiment 800 mégawattheures et 1 térawatt. Hein, 1 térawatt de capacité, 800 mégawattheures de stockage. Donc ça commence à ressembler à quelque chose. Bon, c'est donc lui, il voit bien hein, les besoins des batteries. Bon, ça arrive quand même. Si je prends le cas de la France, les besoins en batterie deviennent assez tard en fait. Et les besoins en termes de flux en fait, sont finalement assez faibles quand on compare les batteries en fait dont on aurait besoin pour les EV, même si c'est pas pour les véhicules électriques, même si c'est simplement une partie du parc hein, actuel, pour 20 millions, je sais pas, ou 16 millions je crois qu'il y a une simulation, on a une vingtaine de millions de voitures électriques, hein, comme ça, sur 2050, je crois que Philippe, tu connais mieux que moi. Sinon, le besoin en batteries stationnaires, elles sont assez faibles en fait. Donc la flexibilité dans un monde NR, la batterie, elle vient assez tard. D'abord, on va utiliser beaucoup d'autres outils qui vont être intégrés au réseau. Et donc Enedis, enfin chez nous en France, on a Enedis et RTE qui ont déjà un plan de développement du réseau qui est déjà fixé hein, jusqu'à 2030 ou 2035 et dont les coûts d'ailleurs sont connus déjà. Et jusqu'à 2030, 2035, l'investissement qui en valeur absolue est assez important, mais finalement en termes de mégawattheure, je crois que c'est 3 euros du mégawattheure, comme ça. Hein. Donc
Attends,
on
3
reste
euros du
encore.
mégawattheure, dans quoi? Dans les moyens de
Alors,
flexibilité?
dans les réseaux. Dans le réseau,
Dans les
donc dans le
réseaux. Ah,
réseau,
d'accord.
ça veut dire quoi? Voilà. Donc ça reste quand même des sommes assez faibles hein, en termes de coûts de kilowattheure. Hein, et à part ça t'amène jusqu'à 2035 déjà. Donc on est quand même. Je dirais qu'il faut vraiment se projeter. On a du mal à se projeter, souvent c'est 10 ans, 15 ans, 30 ans. Et en fait, on a du mal, on imagine en fait un réseau de 2050, on l'imagine demain. Mais les moyens de flexibilité, on va les bâtir petit à petit, au fur et à mesure que les énergies progressent, les interconnexions arrivent, etc. Voilà. Donc, je sais pas si peut-être je vais laisser les autres parler un petit peu. Je voulais un
Non,
peu fixer un cadre temporel à ces idées de flexibilité.
tout à fait, c'est très important et intéressant de donner aussi une vision de temporalité. Juste donner un complément et peut-être afficher un schéma qu'on pourra après continuer à commenter parce que c'est bien important que les gens comprennent ces questions de temporalité, de la flexibilité. Juste sur l'offshore, il y a un calcul assez simple qui suggère si on accumule tous les projets dans les cartons de l'espace européen, donc notamment en mer du Nord, mais pas que, aussi Portugal, France, Grèce, etc. Tout ça, c'est déjà on va dire, dans les cartons, l'éolien offshore, à 2030, ça fournirait l'équivalent de la consommation d'électricité de 15% de l'Union européenne, aurait 15% de la consommation actuelle, ce qui serait livré en 2030. C'est pour donner un ordre d'idée. Aujourd'hui, on est très loin de 15%, je ne sais pas, on doit être à quelques pourcents d'éolien offshore. Donc c'est juste pour dire à quel point en seulement 7 ans, on passe déjà un peu à un autre système, rien qu'avec l'offshore. Il y aura d'autres évolutions. Et donc déjà, avec les facteurs de charge que sont ceux de l'éolien offshore, on ne parle pas tout à fait de la même gestion de réseau que celle d'aujourd'hui. Vous
Si tu veux,
m'interrompez.
je peux juste compléter là-dessus. C'est parce qu'on a du mal à se représenter en fait la dynamique mondiale en fait en termes de capacité. Il faut savoir aujourd'hui quand même que et ça continue. Hein, je crois qu'on s'en était parlé Cyrus l'année dernière. Et en fait, ça continue, ça se confirme. Hein, 95% des centrales électriques dans le monde qui s'installent, 95% en capacité, ce sont des énergies renouvelables. Et donc, comme on a, si tu veux, si tu prends par exemple l'augmentation de la demande en électricité, bah, en Europe, hein, aujourd'hui, bah, elle n'est pas présente, hein, avec la crise. Et quand on va commencer à électrifier, elle va commencer à augmenter, mais c'est, si tu veux, en termes de pourcentage, on reste quand même dans des hausses qui ne sont pas vertigineuses, hein, pas comme dans les pays émergents. Et donc, nous, on installe en permanence des énergies renouvelables dans un monde électrique qui ne bouge pas tant que ça, d'accord? Donc en fait, notre système, il évolue assez fortement. Et ça, si tu le regardes aux États-Unis, tu le regardes en Australie, tu regardes globalement dans les pays de l'OCDE, il y a un vrai remue-ménage hein, dans nos réseaux. Et donc, pour prendre un exemple de l'Allemagne, malgré la crise, malgré les problèmes d'approvisionnement, on se retrouve avec 7 gigawatts hein, de solaire qui ont été installés l'année dernière. C'est gigantesque. Hein, 7 gigawatts, c'est 7 fois, 7 fois ce que nous, on installe en France en une année. L'Allemagne l'installe en une année, 7 fois. Hein, donc, 7 ans. Alors non, je crois qu'on a commencé, je sais pas, Vincent, tu vas connaître plus. Là, on approche peut-être les 2 gigawatts, je sais pas. Mais c'est gigantesque. Et ça, l'Europe a clairement été très claire sur ce sujet. Hein, il va y avoir une accélération très forte. Il y a une prise de conscience vis-à-vis voilà, il y a des réglementations qui ont été passées. Espérons que toutes les nations hein, vont suivre. Hein. Nous, on a eu cette loi d'accélération des énergies qu'on peut critiquer, hein, mais il y a cette démarche hein, européenne. Et donc, il va y avoir une accélération très forte avec des montants qui sont très importants. Il y a à peu près 200 milliards d'euros hein, qui sont prévus en termes d'investissement jusqu'à 2027 en Europe. Donc ça va aller très fort.
Tout à fait. Avant de poursuivre avec Damien, dont je suis sûr que certaines choses qu'il va dire vont aussi être illustrées par ce schéma, mais certaines choses qui ont été dites sont déjà illustrées par ce schéma. Alors, si vous suivez en podcast, c'est pas grave. C'est le schéma est aussi en couverture de ce podcast et je vais mettre le lien vers le schéma. Donc, c'est tiré du rapport RTE et c'est schématique et pas quantitatif. Ce que ça dit, ça reprend l'idée qu'il y a différents horizons temporels sur lesquels les différentes solutions de flexibilité agissent, qu'on soit sur un horizon intrajournalier ou interannuel, ce n'est pas les mêmes leviers, ce n'est pas les mêmes technologies. Pour donner une idée, l'échelle intrajournalière, c'est, bon, je pense évidemment, entre le jour et la nuit, y a du solaire, puis il n'y a pas de solaire. Ou au sein d'une journée, le vent peut tomber. Etc., etc. Et une flexibilité interannuelle, ça va être notamment, j'imagine, d'une année sur l'autre, il peut y avoir 20-25% de vent en moins le long de l'année, donc il faut prévoir d'autres moyens de flexibilité. J'aurais dû réviser avant pour m'assurer que je ne suis pas sur le point de dire une bêtise, mais Damien va probablement me corriger. Quand on voit un trait, par exemple pour les interconnexions, qui va à la fois qui va jusqu'à interannuel, ça veut dire que ce moyen-là, non seulement jouer sur l'échelle interannuelle, mais aussi intrajournalière, c'est-à-dire les interconnexions permettent d'équilibrer le réseau aussi au sein d'une journée. Mais enfin, ça paraît évident, mais peut-être je te laisse poursuivre, Damien. On voit que voilà. Ah oui, sur ce que disait Karim, évidemment, on voit là que c'est loin de ne se limiter qu'aux batteries.
Oui, exactement. Alors, c'est vrai que je voudrais peut-être ajouter une première idée quand même par rapport à tout ce qui vient d'être dit, c'est que la France est quand même un cas particulier aussi par rapport à d'autres, dans le sens où on a déjà en fait des grandes capacités de flexibilité qui sont disponibles. Donc on a notamment toute la capacité hydro qui est présente, on a aussi des steppes, ce qui fait qu'avec ces capacités, également aussi des interconnexions, en fait, à horizon 2030-2035, on a très peu be de besoin en fait de développer les flexibilités, même si on développe massivement les ENR. En fait, le gros enjeu des flexibilités pour le cas français, il va plutôt concerner la fin de la décennie 2030 et la décennie 2040. Donc ça, c'est aussi pour répondre un peu à certains commentaires qu'on peut voir. Oui, mais vous mettez de l'éolien, vous mettez du photovoltaïque, mais est-ce que vous avez pensé au stockage? En fait, le stockage aujourd'hui, c'est pas nécessaire sur notre réseau français. Maintenant, pour reprendre un peu ce graphe, donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on voit qu'il y a différents horizons temporels. Donc, il y a, comme tu disais, l'horizon intrajournalier. Alors, sur intrajournalier, en fait, un des moyens les plus efficaces pour répondre à ce besoin, c'est la batterie. Mais la batterie, en fait, c'est un système qui peut déstocker beaucoup de puissance, mais à peu de capacité en fait, c'est-à-dire que on va épuiser ce moyen donc de stockage en quelques heures seulement. Donc les batteries stationnaires en fait, ça peut, on va dire, stocker environ 4 à 5 heures de production d'électricité. On va dire pour stocker sur du plus long terme, ce qui vient par la suite en fait, c'est les stations de transfert pompage. Donc les steppes, hein. Et les steppes, le stockage, il n'est pas non plus si important que ça, en fait, c'est au maximum quelques jours. Donc les steppes, elles sont très très intéressantes pour l'éolien. Parce que l'éolien, en fait, on a une très forte variabilité au sein d'une semaine. Et donc la steppe, quand on va coupler des steppes avec de l'éolien, eh bien quand il y aura un peu moins de vent sur quelques jours, ben, les steppes vont pouvoir compenser ça. Inversement, les batteries, c'est un moyen de flexibilité qui est très facilement couplé en fait avec le solaire parce que la problématique du solaire c'est qu'il fait nuit. Quand il fait nuit, il n'y a pas de soleil, donc on ne produit pas. Et bien les batteries, notamment en début de soirée, on peut avoir des fortes consommations, mais elles vont pouvoir répondre en partie à ce besoin. Et puis après, on a quelque part un peu tout le reste. Donc on a notamment les réservoirs hydrauliques. Alors les réservoirs hydrauliques, quand on regarde le graphique, on voit que en fait, on va vraiment être sur la quasi-totalité en fait, c'est-à-dire on va faire de l'intrajournalier, de l'intra-hebdomadaire, et puis même jusqu'à l'intersaisonnier. En fait, les réservoirs hydrauliques, c'est par exemple le lac de Serre-Ponçon. Donc, c'est des très, très grands réservoirs qu'on ne va pas remplir comme les steppes. Et en fait, on va lorsqu'il va pleuvoir, on va économiser l'eau pour l'hiver. Parce qu'on sait que l'hiver, il faut qu'on ait des stocks le plus haut possible pour pouvoir répondre, notamment dans les moments où on va avoir besoin d'un maximum d'électricité. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui peut être utilisé, par exemple, pour répondre à des pics. Mais si on peut éviter d'utiliser ces réservoirs, On va l'éviter parce qu'en fait, le besoin principal, c'est pour répondre aux pics de conso hivernaux, où à certains moments, en fait, on va avoir besoin de toute la puissance disponible sur le réseau français. Écoute, ouais, question.
Dans la poursuite de ce que tu évoques, est-ce qu'on m'entend? Oui. Pilotage de l'ECS et pilotage de l'eau chaude sanitaire, c'est ce que Vincent évoquait en introduction. Bon, là,
Exactement.
ce pour qui c'était pas clair. Que dire sur l'effacement de consommation? Je pense que ça peut recouvrir pas mal de choses différentes. Je veux dire, le premier levier, on va dire le plus facilement activable, c'est des gros sites industriels qui peuvent s'arrêter quelques jours, quelques semaines. Et reporter leur consommation d'électricité à un autre moment. Bon, ça, je pense, mais ça, c'est assez limite traditionnel. Peut-être ce dont certaines personnes dans leur maison ont entendu parler, c'est le fameux heure pleine, heure creuse. Mais il me semble que demain, on pourrait imaginer aller plus loin dans la participation des ménages et même des petites entreprises dans les bureaux dans l'effacement et le décalage de leur consommation avec des tarifications incitatives ou que sais-je, enfin que chacun soit un peu plus actif au quotidien aussi pour équilibrer le réseau.
Parfait. Alors, je pense qu'il y a peut-être un point important, hein, par rapport aux effacements. Souvent, là aussi, il peut y avoir pas mal d'idées reçues, hein, sur la question effacement. En fait, par effacement, on a parfois l'impression qu'on va nous couper le courant chez soi, à la maison, ou qu'on va couper le courant à la SNCF et que le train ne va pas pouvoir partir à l'heure. Non, aujourd'hui, les effacements, comme tu l'as très bien dit, c'est essentiellement sur des industries qui peuvent avoir un intérêt, en fait, à ce qu'on leur coupe le courant. Elles sont rémunérées pour ça, hein, donc à des prix assez élevés. Et en fait, on le fait uniquement quand le besoin est vraiment présent. Donc, c'est au maximum quelques heures dans l'année. Donc, c'est des effacements qui sont vraiment très ponctuels. Plus tard, ce qui pourrait se développer, c'est des effacements diffus qui pourraient donc concerner donc des utilisateurs diffus. Donc, ça pourrait être en fait différents citoyens, enfin différents habitants qui, à certains moments, pourraient décaler leurs usages et valoriser ça au travers d'effacements. Donc, ce serait quelque chose qui pourrait s'ajouter en plus du pilotage qui est déjà existant via les signaux tarifaires qu'on a via le système heure creuse, heure pleine. Je pense qu'il y a aussi peut-être un point à évoquer qui est celui des interconnexions. Donc, ça a déjà été évoqué tout à l'heure, hein, mais les interconnexions, en fait, elles ont un rôle qui est très important. C'est de favoriser le foisonnement de la consommation et de la production. Parce que souvent, le foisonnement, là aussi, hein, il peut y avoir un peu des idées reçues. On nous dit souvent qu'il n'y a pas de foisonnement à l'échelle européenne. Mais en fait, c'est une idée qui est assez compliquée. C'est-à-dire que le foisonnement, ce n'est pas une solution pour résoudre à lui seul l'enjeu de l'intermittence. Mais ce que permet le foisonnement, c'est d'éviter d'utiliser d'autres flexibilités dans des moments où il y a une complémentarité entre la production d'un pays et donc le manque de production dans un autre pays. Par exemple, il peut y avoir des moments où on va avoir beaucoup de soleil en Espagne et qu'on va avoir un besoin donc d'exporter cette production donc de soleil espagnol sur d'autres pays. De même, les régimes de vent n'étant pas les mêmes entre la mer du Nord et l'océan Atlantique, on peut avoir des moments où il n'y a pas de vent en mer du Nord et puis il y a des moments où il y a du vent sur l'Atlantique. Parfois, effectivement, il peut y avoir des moments où il n'y a pas de soleil, pas de vent nulle part. Et donc, dans ces moments-là, on va utiliser les flexibilités de dernier recours. Et ces flexibilités de dernier recours, on le voit aussi sur le graphique, c'est les capacités thermiques décarbonées. Donc, c'est essentiellement en fait des centrales à gaz. Et donc, dans l'étude RTE, ces centrales à gaz, ben, on utilise du gaz décarboné et non pas du gaz fossile. Et ce gaz décarboné, ben, il peut avoir plusieurs origines. Donc, ça peut être du biogaz, produit par exemple par des méthaniseurs, ou de l'hydrogène, produit à partir d'électrolyseurs.
Ok. Écoute, merci pour ça et je voulais aussi poursuivre sur ton histoire de nuit sans vent, qui est une angoisse fréquente. Et alors, pendant que tu parlais, j'ai pu aller dénicher, il me semble, alors on n'avait pas prévu ça, mais un autre graphique du rapport RTE. Est-ce que vous le voyez à vos écrans?
Ben, c'est très bien que tu le présentes. Ouais.
Oui, alors Philippe ne va pas être content parce qu'on fait trop de RTE, mais il pourra s'exprimer. à son tour. Bref, c'est des private jokes de geek. Non, mais voilà, Damien, je pense que ça se commente. Alors là aussi, hésitez, ça nécessite de prendre le temps qu'on ne prend pas nécessairement sur CNews ou sur Sud Radio ou chez Berkoff et tout. Donc tout ça est compliqué. Ça prend pas, ça prend très peu de temps pour raconter une bêtise sur les éoliennes ou que sais-je. Ça prend beaucoup plus de temps pour expliquer comment ce truc pourrait fonctionner. Donc n'hésite pas à vraiment Effectivement, bien prendre ton temps.
Alors déjà, voilà, pour présenter ces deux graphiques, ils présentent donc deux scénarios. Donc le scénario d'en haut, c'est le scénario M2.3 en 2050. Donc c'est un scénario qui vise 100% énergie renouvelable à 2060. Vu que là, on se projette en 2050, il y a encore une petite part de nucléaire. Hein. Donc c'est l'idée, en fait, dans ces scénarios, c'est de ne pas arrêter les réacteurs nucléaires tout de suite. Tant qu'on peut les utiliser, on les maintient en place. Et donc, en fait, à horizon 2050, RTE estime qu'il pourrait y avoir à peu près ce niveau-là nucléaire si on déclasse les réacteurs par rapport à leur durée de vie. Là, ce qu'on voit, en fait, sur ces deux graphiques, c'est les pires semaines possibles. Donc, c'est des semaines en hiver où il y a une très forte consommation et où malheureusement, ben, on a plusieurs jours sans vent. Ou, comme on peut le voir, en fait, il y a quand même toujours une production éolienne, mais il y a des moments où la production éolienne est très faible. Et donc, ce qu'on peut voir, en fait, sur ces deux graphiques, ben, c'est comment on va gérer le système sur ces périodes-là. Le graphique du bas, c'est un scénario avec nouveau nucléaire. Donc, c'est-à-dire qu'on maintient au maximum les réacteurs en place, et en plus, on construit 14 EPR à horizon 2050,
Donc, il y a
ce qui
une barre
permet
jaune
d'avoir
plus
plus de temps.
épaisse, quoi. Donc,
Voilà,
en gros,
exactement.
c'est plus facile de s'en sortir en bas.
Voilà, en fait, en bas, ce qu'on peut observer, c'est qu'on ne va pas avoir utilisé un moyen qui est en fait le gaz décarboné. Donc, le gaz décarboné, c'est ce qu'on voit en violet sur le graphique du haut et qu'on ne voit quasiment pas en fait sur le graphique du bas parce qu'en fait, il y a très peu de besoins en fait sur le scénario N2 de gaz décarboné. Donc pour reprendre un peu le graphique du haut, ben ce qu'on voit, c'est que déjà, en fait, d'une part, on a beau être en hiver, au mois de février, la production solaire, elle n'est pas du tout négligeable. Elle apporte en fait énormément, parce que quand il n'y a pas de vent, il y a souvent du soleil, il fait froid, et les panneaux solaires aiment bien le froid, donc ils produisent certes pas autant qu'en été, mais la production n'est pas du tout négligeable. Donc ça, c'est un premier point. Vu qu'on est sur une semaine sans vent, c'est typiquement le genre de semaine où on va utiliser au maximum les stocks hydro, donc à la fois ce qu'on a stocké dans les steppes, mais aussi les stocks de type barrage de Serre-Ponçon. Donc c'est ce qu'on voit, la partie bleue, d'un coup, en fait, elle augmente très fortement. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a des moments, donc c'est ce qui est en gris, en fait, hein, au-dessus de la production solaire, donc au sommet du graphe, on voit un gris foncé. Et donc c'est des moments où on est en capacité d'importer de nos voisins, parce qu'en fait, il y a des phases où ben, nos voisins, ils ont un accès. Mais quand on regarde, par exemple, la journée du vendredi 16 février, eh ben, c'est un moment où même nos voisins, en fait, ils n'arrivent plus à nous exporter parce qu'eux-mêmes, ils ont des besoins trop importants. Et donc, dans ce cas-là, la totalité des flexibilités qui sont résiduelles, ben, on va les faire à partir donc de gaz décarboné.
Le violet, quoi.
Exactement, là.
Ouais. Et dernière chose. Non, non, mais c'est bien. Il me semble que c'est clair. Oui, non, que le rôle des batteries de voitures électriques est au final plutôt secondaire. Alors, ça vient peut-être un peu sauver la mise le mardi 13 février. Là, on voit un bout. Mais que voilà, on repose pas de manière importante, si j'ai bien compris, sur les batteries de véhicules ou même les batteries tout court. Hein, ça joue pas une grosse part.
Voilà. Alors, elles peuvent avoir un rôle quand même, hein, c'est-à-dire qu'au niveau économique, elles peuvent diminuer le coût global du système. Donc, dans les scénarios RTE, il y a toujours des batteries. Mais là aussi, ce qui est vraiment très important, c'est de faire la comparaison par rapport aux autres besoins en batterie, par exemple pour les véhicules électriques. Et dans les scénarios de référence de RTE, il y a un besoin en batterie qui est 30 fois plus important pour les véhicules électriques que pour le système électrique. Donc, l'enjeu des batteries, il est pour les véhicules électriques. Donc, c'est quelque chose qu'il faut développer, hein, bien entendu. Mais voilà, qu'on ne vient pas nous dire que c'est les ENR qui vont générer des besoins trop importants en batterie, ça c'est une idée qui est complètement fausse.
OK. Et on voit que les 17 et 18 février, dans cette simulation de 2050, le vent reprend et la France devient exportatrice, peut-être auprès de pays qui ont moins de vent à ce moment-là ou que sais-je. Enfin, c'est l'idée, c'est une illustration, quoi. Bien. Et les effacements dans tout ça, les effacements de consommation, alors c'est en gris clair, ça jaillit pas forcément aux yeux de quel rôle ça joue.
C'est
Bon,
pas le rôle principal, effectivement.
ok.
Mais ça permet quand même toujours d'évacuer. En tout cas, sur ces semaines-là, on les voit relativement peu, mais ça peut jouer un rôle. Là aussi, en fait, on se rend compte que le coût du système diminue quand on les inclut.
D'accord. Ok,
Mais
ben voilà.
on pourrait faire ça, en fait, aussi, hein. Mais c'est juste qu'il faudrait compenser par d'autres technologies de flexibilité.
Mais donc là, effectivement, on est dans une situation où on n'a pas eu besoin de couper l'électricité massivement pour s'en sortir. Je pense que c'est aussi important de le dire. Mais c'est quelque chose qu'on a quand même dans notre besace éventuellement. Mais on ne va pas parler de coupure ici, on parle de flexibilité. Mais c'est pour dire, là, dans cette simulation-là, enfin, j'ai envie de dire, comme on a eu peur que ça advienne là, il y a quelques semaines, il y a toujours le levier de simplement de délestage, quoi, hein, c'est bon. Mais on n'y a pas recours ici. Il faut juste savoir que c'est possible.
Sachant que voilà, les scénarios RTE, ils ont quand même la capacité, en tout cas, donc le nombre de flexibilité, le nombre d'énergies renouvelables qu'ils ont mis en place dans les scénarios RTE, l'idée c'est vraiment d'avoir des délestages qui soient au maximum, donc après c'est des études probabilistiques, mais qui soient au maximum de quelques heures. Et en fait, l'année qu'on a eue là, on était bien au-dessus en fait du cadre réglementaire qui nous dit qu'il faut pas qu'on fasse plus de quelques heures de délestage. Là, on était vraiment dans une année qui était très critique. Et on a déjà passé des années qui étaient beaucoup plus critiques que ce mix énergétique à 2050 à 90% NR.
Merci Damien. Philippe, je sens que tu vas nous dire des choses curieuses qu'on n'entend pas beaucoup en France.
Ouais. Et je vous parlerai pas beaucoup du Québec parce qu'on n'a pas de choses très intéressantes à dire sur la question. Enfin, pas tant que ça. La source au Québec, c'est 95%, pratiquement 95% de l'électricité de source hydraulique. Alors, on a un stockage pratiquement infini, une flexibilité pratiquement infinie. Le 5 ou 7% qui reste, c'est de l'éolien qui pose pas de problème particulier à équilibrer dans ces circonstances-là. Le solaire et tout ce qui est thermique est pratiquement inexistant. Le thermique est limité aux communautés nordiques isolées qui sont pas reliées au réseau parce que c'est à des centaines de kilomètres. Alors, si vous allez chez des Inuits, vous allez trouver des centrales au mazout. Et ailleurs, ça n'existe pas. Donc, la flexibilité chez nous n'est pas un enjeu. Ce qui est un enjeu, en fait, c'est la gestion de l'heure de pointe. Au Québec, encore plus qu'en France, on se chauffe pratiquement uniquement à l'électricité et on se climatise pas beaucoup. Ce qui fait quand le pic de demande, le jour, le 20 janvier, où la température tombe à moins 25 la nuit, et entre l'été, il y a un rapport de 1 à 3 à peu près dans la consommation. Et à chaque vague de froid vraiment importante, Hydro-Québec arrive aux limites de ses capacités à fournir de l'électricité. Il faut importer de nos voisins. On n'est pas très bien équipés pour le faire. On est un réseau presque indépendant. On a très peu d'interconnexions avec nos voisins. Alors, les capacités d'exportation et d'importation sont assez limitées, en fait. C'est pas inexistante, mais c'est pas comme ça qu'on va gérer les choses. Depuis quelques années, il y a un intérêt pour la gestion de la demande. L'idée, en fait, c'est de réduire l'appel de puissance en nombre de mégawatts en incitant les clients à consommer autrement. Il y a une filiale qui s'appelle Ilo qui a parti très petit et tout à coup, il y a un immense intérêt pour ça, pour envoyer des signaux aux consommateurs à quel moment ils doivent consommer et ne pas consommer d'électricité. Je pense qu'on en est au balbutiement de cette chose-là. Comme chez vous, jusqu'ici, on pensait l'électricité en termes, il y a une demande, on doit fournir de quelque façon, et on peut pas demander vraiment aux clients de faire des sacrifices ou restreindre sa consommation des moments critiques. Mais en fait, on est rendu là, et je vois par la recherche internationale que tout le monde jongle avec des idées comme ça. Donc, pour le moment, on envoie des signaux, là. Ça fait très longtemps, en fait. Il y a déjà 35 ans, je pense, les gens qui étaient abonnés au programme Bi-Énergie avec des pompes à chaleur très populaires depuis très longtemps au Québec. Si la température tombait en dessous d'un certain, en dessous de moins 13, je crois, la demande est importante. Il y a un voyant qui s'allumait chez vous, l'électricité est plus chère à ce moment-là. Alors, les gens restreignaient leur consommation de façon spontanée, enfin, ça, à base de cette information-là. C'est très, très simple comme signal. Ça marchait assez bien. Le seul problème, c'est que ça marchait uniquement dans des maisons unifamiliales reliées à des pompes à chaleur. Donc, l'impact global était pas si énorme que ça. Alors, l'idée avec Hilo actuellement, c'est d'amener ça à d'autres types de clients. Et je pense qu'éventuellement, c'est pas ce qu'Hydro-Québec a annoncé, mais je vois la recherche au niveau international. L'idée de plus en plus, c'est de confier cette gestion de la consommation dans les maisons à des systèmes automatisés. Votre compteur ou l'intelligence artificielle quelconque va prendre le contrôle de votre consommation jusqu'à un certain point. Alors, si le réseau envoie le signal que, il y a beaucoup de demandes, qu'on risque de manquer d'électricité, il va débrancher votre chauffage pendant 1 heure ou 2, va débrancher votre frigo. Et il va reprendre après quand la crise va être réglée. Parce que souvent, les périodes là, où l'électricité est insuffisante, où c'est contraint, ne sont pas très, très longues. Ça peut se gérer par des moyens comme ça. Mais on peut voir aussi, en regardant plus loin, si on va plus loin dans cette logique-là, on pourrait commencer à faire du stockage thermique. C'est des idées qui circulent. Comme par exemple, si aujourd'hui, il y a beaucoup d'électricité parce qu'il y a beaucoup de vent, beaucoup de soleil et que l'électricité est bon marché, on pourrait décider, enfin le système pourrait décider, je pense que le client n'a pas la capacité de prendre des décisions comme ça, mais le système pourrait décider de chauffer votre maison par exemple à 23 ou à 25 degrés et cette chaleur-là se perdrait lentement le lendemain quand il y aurait moins d'électricité, mais vous n'auriez pas besoin de chauffer parce que votre maison aurait servi d'accumulateur de chaleur et donc d'accumulateur d'énergie. Ça serait comme une batterie, mais thermique. Il y a de la chaleur qui est accumulée dans le système. Et pendant la journée froide ou sans vent, à ce moment-là, les besoins, les demandes sont adressées au réseau, seraient beaucoup moins importantes. Le
Question
mot que je n'ai pas entendu. Oui?
néophyte, pardon, question néophyte, est-ce que le stockage thermique peut servir à stocker l'été en vue de libérer l'énergie l'hiver? Ou c'est pas ça marche pas
Ouais.
sur des échelles aussi longues?
On parle pas tout à fait de la même chose. Souvent, quand on parle de stockage thermique, j'ai remarqué ça, surtout en France, on parle d'accumuler de l'eau dans le sous-sol. On creuse des puits profonds.
Ouais.
On va accumuler de l'eau froide pendant l'hiver. On va accumuler de l'eau chaude pendant l'été et libérer ça en mode intersaisonnier. Là, quand je parle de stockage thermique, on est plutôt en mode interjournalier ou à l'échelle d'une semaine ou 2 ou 3 jours comme ça. Il y a différentes échelles qui sont possibles par des moyens un peu différents. Là, il y a même pas aucune installation à faire. Ça serait d'accumuler de la chaleur dans votre maison. Ça ne demande aucune adaptation. Juste que, tu sais, actuellement, comme les signaux qu'on envoie aux clients sont pas très précis ou qu'on n'en envoie pas du tout, ce qu'on recommande, c'est de chauffer tout le temps, par exemple, à 19 degrés pour limiter la demande. Mais en fait, si vous avez une journée où il y a surabondance d'énergie, on sait qu'on installe beaucoup de renouvelables, il y a souvent des situations de surabondance d'énergie où on doit faire de l'effacement. Plutôt que de faire de l'effacement, on est mieux de surconsommer cette énergie-là, surchauffer nos maisons, et cette chaleur accumulée va se perdre tranquillement pendant la journée ou 2 qui va suivre, surtout si les
D'accord.
maisons sont bien isolées. Donc, ça demande absolument aucun équipement, mais à part la capacité d'envoyer ce signal ou de prendre des décisions à la place du client.
Je te laisse poursuivre sur ton idée précédente, avant de t'interrompre.
Ouais. La chose que j'ai pas beaucoup entendue ici, qui est un gros, gros intérêt chez les Américains, c'est tout ce qui concerne l'architecture des réseaux. Et c'est un mot, c'est un concept assez vaste, ça recouvre beaucoup de choses, notamment les interconnexions, mais ça désigne aussi, la façon dont on va relier les batteries au réseau et où on va les mettre. L'endroit où on les situe physiquement, peut être critique. Un exemple qu'on donne, supposons qu'il y a une région où il y a un appel de puissance qui tend à être supérieur à ce que le réseau est capable d'offrir, mais seulement à certains moments précis dans l'année ou seulement à l'heure de pointe. Les gens, par exemple, reviennent du travail à 6 ou 7 heures le soir, il y a un gros appel de puissance et à ce moment-là, le réseau n'est pas capable de fournir localement. Il faudrait reconstruire le réseau de distribution pour installer plus de capacité. Ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est d'installer une batterie localement qui va accumuler de la puissance et qui va la libérer à l'heure de pointe pendant 1 heure ou 2 heures. Et là, à ce moment-là, on n'a pas besoin de renforcer le réseau de transport parce qu'il y a de la capacité qui est stockée localement et qu'on peut libérer localement. Il y a beaucoup d'énergie, d'économie d'argent à faire avec ça et ça limite aussi la nécessité de renforcer les réseaux autant qu'on l'estime ou qu'on l'estimait il y a quelques années. Alors, il y a la recherche qui se fait là-dedans. Le rôle des batteries, en fait, est rarement de fournir de la capacité sur des longues périodes. Il y a à peu près plus personne qui l'envisage comme ça. Soit qu'on fait de l'interjournalier, soit qu'on fait du lissage, on équilibre la demande et l'offre à très court terme. Les batteries sont vraiment imbattables là-dessus. Bon, l'exemple peut-être classique de l'interjournalier, c'est ce qui se fait en Californie actuellement. En Californie, ils ont 2 heures de pointe le matin quand les gens font leur café avant d'aller travailler et le soir quand ils reviennent du boulot et qu'ils se font à manger. 2 heures de pointe très difficile à gérer. En Californie, ils ont beaucoup de solaire qui produit à midi, justement au moment où on n'a pas besoin d'énergie. Alors, la stratégie est assez simple. On installe à peu près 4 heures de batterie et on accumule l'énergie en surplus le midi. Et on en libère 2 heures le soir et 2 heures le lendemain matin suivant. C'est ce qu'ils appellent cette espèce de courbe où il y a une forte demande le matin, un creux la journée et un regain de demande en fin de soirée. Ils appellent ça la courbe en dos de canard. Ça prend une certaine imagination pour y voir un canard, mais en fait, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Alors ça, c'est des stratégies de gestion interjournalière assez classiques, mais il y a aussi toutes les questions de gestion des goulots d'étranglement sur le réseau qui se produisent. S'il y a un goulot d'étranglement permanent, on ne réglera pas ça avec des batteries, mais s'il y a un goulot d'étranglement 1 ou 2 heures par jour, on peut très bien le régler par des batteries. Et à ce moment-là, on évite les besoins de renforcement du réseau. Qu'est-ce que d'autre dans l'architecture des réseaux? Il y a toutes les stratégies où on va servir d'une source d'énergie pour en équilibrer une autre. C'est toujours une offre d'énergie dans un système renouvelable. C'est toujours un bouquet d'énergie qu'il faut assembler à partir de diverses sources. Dans les discussions un peu populaires, on a toujours l'idée, ouais. Oui, mais le solaire fournira pas la nuit, l'éolien fournira pas quand il n'y a pas de vent, mais il faut savoir qu'il n'y a jamais personne qui a proposé que l'énergie vient d'une seule source. Toujours une combinaison de solaire, d'éolien, d'hydraulique, et si les choses tournent mal, de différents modes de stockage, là, sous forme gazeuse, hydrogène, même du gaz naturel. En fait, si on a vu récemment cette étude là sur ce chercheur qui suit la consommation d'énergie en Australie. En fait, il suit la météo australienne et applique aux données météo réelles un mix énergétique un peu arbitraire, là, 60% de solaire, 45% d'éolien. Oui, ça fait 105% parce qu'il y a un peu de redondance dans le système, c'est prévu. On voit qu'avec cette configuration-là, et avec seulement 5 heures de batterie, je crois, 4 ou 5 heures de batterie sur l'ensemble du réseau, il couvre les besoins en énergie des Australiens sont couverts 99% du temps. Et même ça, et il tient même pas compte des mesures pour limiter la consommation, pour limiter l'appel de puissance.
C'est le poste du
Oui,
Damien ce matin,
quelqu'un.
hein. Damien a détaillé tout
Ouais,
ça
c'est ça.
dans un poste
Mais
sur LinkedIn.
en fait, ça fait plusieurs mois que je suis ce gars-là parce qu'il publie ses résultats à chaque semaine. Il publie ça. Voici ce que ça aurait donné cette semaine. Et la plupart du temps, ça balance très bien. Et quand il y a des déficits, ils sont pas très, très grands. Il les comble avec du gaz naturel parce que c'est ça qu'ils ont en Australie actuellement. Mais ça pourrait être du gaz naturel renouvelable d'origine de la biométhanisation, quelque chose comme ça. Les besoins sont si faibles que la biométhanisation pourrait couvrir. De toute façon, même s'ils utilisent du gaz naturel 1% du temps, en fait, par rapport au mix traditionnel de l'Australie, qui était très charbon, c'est absolument fabuleux. Je crois que les émissions, dans ce contexte-là, ils calculent des émissions qui sont à peu près de l'ordre de 20 ou 25 grammes de CO2 par kilowattheure. C'est pratiquement le tiers de ce qu'on enregistre en France. Ces systèmes-là fonctionnent. Mais évidemment, ils vont prendre un certain temps à se mettre en place. Souvent, on dit que les renouvelables fonctionnent pas, mais c'est parce qu'en fait, le système n'est pas en place. Il va prendre des années à se mettre en place. Et la flexibilité est pas très, le besoin en flexibilité est pas très important pour le moment. Il y a pas mal d'études qui montrent que d'installer toutes les solutions de flexibilité, du stockage, du gaz en réserve, des plus d'interconnexion, tout ça, le coût vient aux alentours de 15 $ par mégawattheure de puissance installée, quand le taux de pénétration est quelque part entre 20 et 80 %. Et à partir de 80 %, le coût monte à peu près à 30 $, ce qui est quand même pas exorbitant. Mais ce que ces
Ça veut dire
calculs-là
qu'avec
montrent, en
les
fait, c'est que les
connaissances,
besoins sont...
avec les, vous reformulez, dans les connaissances scientifiques, technologiques actuelles, une fois qu'on dépasse 80% d'électricité d'origine éolienne ou solaire, donc variable, dans le mix, le surcoût d'intégration au réseau est de 30 euros le mégawattheure. C'est ça?
À peu près 25 ou 30, ça dépend des études. Il y a un peu de variabilité là-dessus aussi, mais le portrait global qui émerge de ça est très clair. C'est pas très, très cher. Surtout si on part d'énergie renouvelable, du solaire éolien, qui sont souvent en dessous de 40 $ le mégawattheure actuellement. Le total reste très raisonnable, en fait.
Bah,
Et toutes
aujourd'hui,
les
le
techniques.
solaire, c'est quoi? C'est 30-40 et on peut imaginer qu'en 2050, ce sera peut-être en dessous. Enfin, je ne sais pas à quel point, mais ce sera en dessous. Et donc, une fois qu'on franchit les
Il
80% de coût.
ne serait pas étonnant que ce soit à 15.
Oui, j'ai lu toutes sortes d'estimations, mais effectivement, c'est
Ça
dans.
dépend des pays, les amis, puisqu'on est déjà moins cher en Espagne, par exemple, au Portugal, et puis aux Émirats, on est très peu cher. Ça dépend. En Australie, vous avez des zones très ensoleillées.
Ça
Ça
dépend
dépend
sur
des
l'ambiance.
pays. Mais c'est en
Mais
France,
juste
voilà.
pour bien comprendre ce 30 euros, ça veut dire qu'une fois qu'on dépasse à peu près les 80%, ces 30 euros se rajoutent à ce qui se rajoute au-dessus des 80%. Ce n'est pas 30 euros de plus sur tout ce qui précède entre 0 et 80%.
Ouais,
C'est non, c'est pour que
ouais, ouais.
j'en comprends
C'est un
bien.
coût marginal.
C'est un coût
Ouais,
marginal.
80 % de la variabilité se gère à 15 euros du
15, oui,
mégawattheure, ce qui est,
c'est
ou 15
important.
dollars, ou ce qui est pas très important.
Non, non, mais alors, effectivement, moi, ça ne fait pas 20 ans que je suis ce sujet-là, mais depuis quelques années que je le suis, j'ai l'impression qu'effectivement, plus on avance, plus on est plutôt confiant sur combien va coûter toute cette affaire et quels seront vraiment les besoins. Par exemple, on a parlé des batteries, bah, au final, il n'y en aura pas besoin de autant qu'on imaginait, etc. Bon. Et que c'est un domaine extrêmement finement recherché, où on a beaucoup de données, on a beaucoup de simulations. Et il y a une architecture qu'on imagine qui devrait fonctionner. Bon, tout ça est plutôt rassurant et la voie est tracée sur les 3-4 prochaines décennies. La question, une fois qu'on a dit ça, c'est qu'est-ce qui peut quand même merder, que ce soit d'un. Alors, il y a un point de vue technique, mais alors, on va peut-être refaire un tour de parole en repartant peut-être de Vincent, mais sur votre vision du terrain, votre connaissance des acteurs, qu'est-ce qui peut freiner au passage? Je pense pas tellement à des freins politiques, voilà, des oppositions locales, etc., où il n'y a pas besoin de faire un dessin pour dire qu'il y a des freins, mais d'un point de vue technique, pour faire fonctionner cette flexibilité, quelles sont peut-être soit des mauvaises surprises qu'on peut avoir, soit voilà, des difficultés à faire fonctionner ce système-là. Peut-être Vincent, si ça t'inspire comme question. Ton micro
Conseiller,
est
j'ai
coupé, ouais, c'est
réussi à
bon.
l'activer.
T'es en
Ah,
mute,
pardon.
ouais.
J'allais retourner sur le thème. Il ne faut pas forcément tout réinventer déjà et dire que on va développer des toutes nouvelles technologies et qu'elles sont nécessaires pour faire cette transition énergétique. Ça, je pense que c'est déjà un présupposé très très fort et qui a sa part de vérité. On aura besoin de nouvelles technologies, mais on a aussi beaucoup besoin de retrouver des choses qu'on savait faire depuis très longtemps. Damien a cité le cas emblématique de l'anticyclone en Europe. Il fait froid, il n'y a pas de vent, comment est-ce qu'on chauffe? Faut bien penser que la conception elle-même de la maison, elle peut résoudre la chose. Quand vous avez une maison avec des surfaces vitrées, bien isolées, dans un temps anticyclonique, vous n'avez pas besoin de vous chauffer beaucoup parce que l'apport naturel du soleil va chauffer suffisamment la maison. C'est à tel point vrai que les maisons anciennes étaient souvent conçues comme ça. Elles étaient conçues de manière d'ailleurs assez intelligente et on mettait des arbres en face, ce qui faisait qu'en été, on était protégé de la chaleur, mais en hiver, les feuilles étant tombées, le soleil entrait et réchauffait la maison pendant cette fameuse période d'anticyclone où il n'y a pas de vent et on ne s'est pas chauffé. Donc déjà, c'est réinventer dans beaucoup de choses. Et évidemment, quand on a eu des périodes d'abondance énergétique, on ne s'est plus soucié de tout ça. On a fait des surfaces vitrées, on a coupé les arbres. En hiver, on disait on met la clim, en hiver, on met un chauffage. Ben non, il faut peut-être redécouvrir des choses qu'on savait faire depuis longtemps et les gens vivaient avec confort. Quand on parle de l'effacement, je revenais aussi au vieux con. En France, on savait faire l'effacement. En France, dans les années 80, on avait développé un système qu'on appelait écrêtement de jour de pointe, et il y avait à l'époque entre 6 et 7 gigawatts d'effacement pendant les périodes de pointe d'hiver. Pour fixer un ordre de grandeur, ça fait 4 EPR2. On veut en construire 6 à l'horizon 2030-2050. Donc, c'est une capacité d'effacement énorme. La
Et
seule
le
chose.
record qu'on ait jamais consommé en France, c'est de l'ordre de 100 gigawatts, c'est ça?
100 gigawatts, c'est 102 gigawatts en février 2012.
102. Et là, donc 6 ou 7, c'est déjà un
C'est ce qu'on
soulagement.
avait dans les années, fin des années 90, typiquement. Donc, on voit bien qu'on pourrait avoir, avec une politique plus volontariste, parce qu'il y avait relativement peu de clients qui avaient ça, ça concernait 10% des clients. Donc, on voit bien que si on peut développer ce genre de choses-là, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Je donne un dernier exemple sur l'heure et le jour et la nuit. En France, on a un différentiel de consommation jour-nuit qui est très faible, parce qu'on a poussé la consommation la nuit. Si vous prenez la référence de l'Italie, il y a déjà 30% de différence entre le différentiel jour-nuit. Ils consomment beaucoup moins la nuit que les Français parce qu'ils sont adaptés différemment. Donc déjà, ça donne un volet énorme pour cette transition avant d'arriver aux 80 dont tu parles. Après,
Pardon, sur le truc des années 80, l'exemple précédent, j'étais à peine né, enfin j'étais né, mais comment ça fonctionnait, comment on faisait pour
mais
gagner
c'est très simple, c'est ça que, bah, ça que le truc qu'on s'en dit, on va faire des nouvelles techniques. C'est très simple, c'est comme disait Philippe au Québec, il y avait une lumière rouge, on vous disait, bah, demain vous consommez moins. Et moi, mes parents, malheureusement décédés, étaient à l'EJP, bah, à ce moment-là, on ne mettait pas le four, on ne chauffait rien et on se débrouillait autrement et on vivait très bien. Et on s'est passé pendant un certain nombre de jours et ça permettait de passer toutes ces périodes de pointe. D'autres avaient des substitutions technologiques très simples. Ces jours-là, bah, ils chauffaient au bois. Ils avaient un poêle au bois, ils chauffaient au bois, ils restaient dans leur pièce principale et ils étaient chauffés différemment. Ils avaient d'autres relèves parfois, ils avaient des relèves avec une chaudière fuel à l'époque, ça existait encore. Donc il y avait des tas de solutions qui existaient. C'est pas forcément rien. C'est toujours le même principe qu'on va inventer, hein, c'est-à-dire simplement dans un contexte différent. En France, typiquement, on a développé énormément de chauffage électrique, donc un usage extrêmement aléatoire et saisonnier, en même temps qu'on développait du nucléaire, qui est supposé être très peu aléatoire et très peu saisonnier. Le nucléaire, c'est fait pour produire à peu près tout le temps, parce qu'il y a une production de base. Donc on a dû créer une énorme inventivité déjà à l'époque pour faire passer ça.
Intéressant. Karim, est-ce que tu veux poursuivre?
Ouais, non, c'est une bonne question de se dire quels sont les risques, hein, et qu'est-ce qui peut marcher. Mais je crois que je le répète toujours, c'est que encore une fois, c'est le temps, c'est-à-dire l'horizon temporel. Hein, on se dit 2050. Qu'est-ce qui va se passer en 2050? Alors très bien, mais aujourd'hui les énergies fossiles sont un pourcentage extrêmement élevé. La France, on a une électricité qui est décarbonée, mais qui va donc la demande va augmenter et puis la disponibilité de nos centrales elle diminue un peu donc il va falloir hein, renouveler un peu tout ça et donc il va y avoir un enjeu hein, sur le réseau électrique mais ça reste quand même une partie je dirais de notre énergie finale c'est 25% d'accord donc on est dans un monde aujourd'hui où en fait la marge de progression et d'évolution de nos réseaux pour décarboner il faut s'imaginer un plan sur 30 ans. Et donc, la question, c'est de savoir quelles sont mes prochaines étapes? Qu'est-ce qui se passe dans 5 ans? Qu'est-ce qui se passe dans 10 ans? Qu'est-ce qui se passe dans 15 ans? Donc, la question à laquelle j'ai envie de répondre, qui serait plutôt, à quel horizon tu vois des problèmes? C'est-à-dire, à quel horizon les incertitudes commencent à arriver très sérieuses? Parce que de ce qu'on voit dans les plans de développement, dans les évolutions technologiques et dans ce qu'on a déjà aujourd'hui, et comme Vincent dit, il y a plein de choses qu'on peut faire. Je dirais, à horizon 10-15 ans, je vois pas le blocage technologique de développement de notre transition énergétique. Et par
Bah,
contre, il peut y
ouais.
avoir
Si
des
on, comme
crises,
en
il peut y avoir
France, on a
des...
aussi une dizaine d'années entre guillemets, de retard, j'aime pas trop ce terme, mais de décalage, voilà. Une
Non,
dizaine d'années de décalage dans la pénétration des renouvelables, effectivement, et que
mais
les
non,
autres
mais c'est
pays n'ont
pas un
pas.
retard. Mais moi, je pense pas que ce soit un retard. Je suis désolé, d'ailleurs, peut-être pour Vincent ou Damien, je sais pas comment vous voyez ça, mais je pense pas qu'on soit en retard. On a une électricité qui produit pas de CO2, donc
Non, mais
c'est ça le but. Donc,
alors dans
pourquoi tu veux développer
l'appropriation, dans
plus
la
de...
pénétration des énergies
Ah
variables,
oui.
alors un retard, non, mais un décalage, mais comme les autres
Oui, mais
y
tu vas pas.
arrivent avec 10 ans d'avance, que nous, dans les 10 prochaines années, on ait des problèmes de gestion de la variabilité, ça, voilà, c'est ce
C'est
que je
très peu
voulais dire.
probable, voilà. Voilà, oui, parce que encore une fois, on va pas développer des énergies renouvelables si on n'en a pas besoin. Donc, les énergies renouvelables, il faut qu'on en ait besoin pour les développer. Et là, maintenant, on en a besoin énormément. Là, pour les 15 prochaines années, on verra que des énergies renouvelables se développer sur notre réseau, d'accord? Et donc, effectivement, là, on va mettre un coup d'accélérateur. Et effectivement, exactement comme tu viens de le dire, on va se retrouver dans des cas d'insertion d'énergie renouvelable au sein d'un réseau qui, en plus, comme Damien l'a dit, a énormément de moyens de flexibilité, d'accord, que des pays sur lesquels on sont déjà passés par là, en fait, hein. Donc nous, si c'est juste sur la France, voilà, pas de blocage. Et puis après, quand on pense à beaucoup plus loin, bah après il y a d'autres sujets qui vont arriver, hein, plus effectivement de sujets de flexibilité, je dirais, au niveau de la consommation. Et puis après, quand on va encore très très loin, il y a le sujet de l'hydrogène, dont je ne sais pas si à un moment vous voulez qu'on en parle, on pourra en parler. Et puis voilà, donc après, à court terme ou moyen terme, est-ce qu'il peut y avoir d'autres blocages, hein? C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, un problème d'approvisionnement X ou Y, etc. Bah, il y a une étude de risque à faire, hein, sur le supply chain, hein, des différentes technologies, hein, que ce soit éolien, solaire, etc. On a vu récemment, hein, que pour les éoliennes, il y a eu, hein, une montée des prix. Les turbiniers en Europe commencent à crier un petit peu, hein, donc bon, les pauvres, ils veulent faire des marges supplémentaires.
Le solaire résiste bien et le coût augmente pas
Ah
trop,
oui,
mais effectivement, l'éolien
voilà, bon,
a l'air
l'éolien,
plus.
ils arrivent un peu avec des marges étroites, donc ils veulent avoir un peu plus d'espace, hein, d'accord? Très bien, bon, voilà, ça va arriver, hein, ça va se développer. Donc il y aura ça, mais quand même, même sur les énergies renouvelables, hein, sur la supply chain, il faut quand même bien se dire que c'est quand même un secteur qui absorbe aujourd'hui 40% des investissements dans l'électricité, hein, au niveau mondial, hein. Et donc, je ne connais pas un seul acteur qui n'a pas un plan sur 10 ans, hein, de développement. Aucun acteur ne raisonne même à 5 ans, hein. Et donc, tout ce qui est approvisionnement, mine, polysilicone, raw material, de toutes sortes, évolution des capacités de production, etc., toute la supply chain est sur au moins 10 ans, hein. Il y a une vraie planification, hein, du secteur global, hein.
Voilà, par exemple, l'offshore de la mer du Nord, qui est un gros chantier, je ne sais plus, on parle de 100 ou 120 gigawatts d'ici 2030, à vérifier. C'est un gros chantier, c'est une grosse capacité supplémentaire qui va venir. Un truc comme ça, tu dis, la supply chain est sécurisée d'avance, c'est-à-dire
Bien
le
sûr,
carnet de commande est là
ils passent des
et les.
contrats. Alors, ils bloquent pas comme ça, mais si tu veux, il y a différents acteurs tout au long de la chaîne de valeur, hein, que ce soit sur les matériaux, puis ensuite les équipements, etc. Et donc effectivement, quand un secteur, enfin quand on sait qu'il va y avoir un développement de capacité dans telle zone, eh bien il y a un peu le branle-bas de combat, pour savoir comment on va s'organiser et comment on va prévoir la chose, d'accord? Donc les développeurs discutent avec les manufacturiers, les manufacturiers discutent avec les miniers, les machins, et donc il y a une organisation qui se crée autour de différents projets, et effectivement on se met un peu sur en ordre de bataille. Ça veut pas dire qu'il y a pas des crunchs des fois, hein, évidemment. Récemment, là, on a vu en Chine le problème du verre. Là, il y a eu le polysilicone, mais en fait, ça va par des énormes à-coups. Par exemple, là, sur le polysilicone, il y a eu une sorte de, enfin, une pénurie, en fait, hein, d'accord, où il y a eu pendant, je dirais, 2 ans, là, un problème. Et puis, les capacités, elles passent du simple au double. Donc, c'est-à-dire que c'est pas une augmentation de 20% ou 10%, et on couvre un peu. Ça va doubler la capacité mondiale, hein, de production de silicone. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment une vision de long terme avec de très gros investissements, qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de frottement. Ça, c'est pas ça qui est dit, mais ça veut dire quand même qu'il y a quand même un trend global qui est quand même anticipé quand même. Voilà.
Damien.
Ouais, je pense que pour rebondir là, par rapport à ce qui a été dit, hein, donc là, on a quand même connu 2 années assez compliquées hein, sur la supply chain. Et pourtant, c'est les 2 années où on a le plus installé de photovoltaïque et d'éolien. Et la croissance en fait du secteur, elle est considérable, quoi. On parle d'augmentation de 30-40% par an. Donc des choses qui, dans un monde même sans problème de supply chain, on pourrait se dire comment c'est possible. Et pourtant, même quand il y a la crise Covid, on arrive quand même à installer dans une année 40% de plus de PV que l'année précédente. Là, tout à l'heure, on avait cité l'Allemagne, 7 gigawatts en une seule année. Donc en fait, nous, on a eu peut-être des problèmes qui étaient un peu plus importants en France, c'est-à-dire moi, j'ai eu pas mal d'installateurs qui m'ont dit qu'ils avaient du mal à s'approvisionner, mais nos voisins européens, que ce soit par exemple les Pays-Bas ou l'Allemagne, eux, ils ont installé en fait des capacités records en 2022 et en 2021. Et puis, pour revenir hein, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure hein, par rapport aux différentes contraintes, c'est que nous, le fait qu'on ait déjà une énergie décarbonée, ça nous laisse un peu de temps en fait pour déployer nos capacités renouvelables par rapport à nos voisins. Et donc, en fait, c'est un énorme avantage qu'on a par rapport à nos voisins,
On a une
c'est qu'on va
électricité
pouvoir les...
décarbonée, si je puis me permettre, mais
Oui, une électricité décarbonée,
je sais bien
pardon,
que tu le
j'ai dit
sais.
énergie,
Mais...
ouais.
Pas
Mais
de souci.
du coup, c'est un avantage qui est considérable parce qu'on va pouvoir les laisser en fait expérimenter toutes les choses les plus compliquées. Et puis, nous, nos gestionnaires de réseau, hein, que ce soit RTE ou Enedis, ils pourront récupérer quelque part les retours d'expérience de nos voisins pour ensuite s'adapter une fois qu'eux auront expérimenté de leur côté. Et moi, je pense notamment au cas australien, hein, où quand on parle de l'Australie méridionale, hein, où ils sont déjà quasiment à 70% d'énergie renouvelable variable, hein, donc de l'éolien et du solaire, ben, je pense qu'en fait, on aurait énormément de choses à tirer du gestionnaire de réseau local pour que RTE et Enedis puissent aussi adapter leurs règles par rapport au retour d'expérience de ce gestionnaire de réseau qui est dans des conditions qui sont quand même assez complexes. Parce que nous, c'est vrai qu'on est dans une grille qui est très interconnectée, on n'a pas beaucoup de besoin de flexibilité parce que celles-ci sont déjà disponibles. En Australie, en fait, ils ont des contraintes assez importantes. Parce que c'est un territoire qui est très peu interconnecté. Et puis, voilà, quand d'un coup, la production éolienne s'effondre parce qu'il n'y a plus de vent, il faut avoir des capacités qui puissent assurer la stabilité du réseau. Et jusqu'à maintenant, ils y arrivent, en fait.
Avant de terminer, on a un peu plus d'une heure, c'est bien, on a dit pas mal de choses, on n'a pas besoin de tout dire là d'un coup. J'ai vérifié cette histoire de offshore en mer du Nord, je ne sais pas pourquoi je fais une fixette pendant cette interview là-dessus. Donc je me suis un peu emmêlé les pinceaux entre mer du Nord et Europe dans son ensemble. Donc en mer du Nord, ce qui est prévu, c'est de l'ordre de 70 gigawatts en 2030 et 150 en 2050. C'est les objectifs d'aujourd'hui, ça peut évoluer demain. Parenthèse refermée. Philippe, je te laisse
Ouais.
tenter de conclure.
Aïe, 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 lourde responsabilité. J'étais très sensible à ce que Vincent a dit sur les pratiques un peu plus, en fait, traditionnelles. C'est peut-être un peu fort pour parler des années 80, mais toutes ces demandes de restriction de la demande, toute notre discussion ici a beaucoup été dominée par le paradigme. Il y a une offre, il y a une demande, il faut lui répondre par une offre quelconque. Ça, c'est pas exactement une stratégie de sobriété, de décroissance ou de basse consommation. Il faut aussi trouver les moyens de revenir à certaines pratiques qui vont nous permettre de limiter la demande. C'est plus facile de faire la transition si on a moins de demandes que si elle continue à exploser. Ça paraît être une évidence et pourtant on n'en a presque pas parlé aujourd'hui. Il faut revenir à cette base-là.
Rien
Et
que pour
souvent,
reprendre,
les
pardon, juste pour un chiffre là-dessus, mais les scénarios RTE qui simulent, il me semble, hein, dans le scénario central, 35 millions de voitures en 2050, et c'est à peu près autant qu'aujourd'hui. Bon, est-ce qu'il y aura, bon, vu les aspirations des jeunes aujourd'hui, vu ce qu'on essaie de faire quand même pour se passer de l'automobile, est-ce que vraiment il y aura autant de voitures dans... Et c'est pas rien, parce qu'il me semble que l'automobile, enfin, ces 35 millions de voitures en 2050, elles consommeraient de l'ordre de, j'essaie pas encore dire une bêtise, mais de l'ordre de 80 TWh d'électricité. Donc, ça fait un bon, oui, presque un quart, un cinquième de notre consommation actuelle. Donc, c'est un gros morceau.
Ouais.
Donc,
Mais
rien que le
ça, c'est
covoiturage, voilà.
Mais ça, c'est à supposer. Un parc de voitures qui ressemble au parc actuel, même si on a 35 millions de voitures, qu'est-ce qui arrive si... on dit que les constructeurs chinois sont sur le point d'arriver en Europe avec des très petits véhicules qui consomment moins. Alors, même à 35 millions de voitures, dans ce contexte-là, la consommation électrique serait moindre. Mais l'obstacle ici n'est pas vraiment technologique, c'est vraiment dans nos façons de penser, c'est la façon dont les gestionnaires prévoient ça. EDF est très axé sur, il y a une demande, on va lui répondre. Et c'est ça qu'il faut casser. Sur le retard ou non de la France dans les 10 dernières années ou sur un horizon de 30 ans, Karim a un bon point en disant que, en fait, la connaissance est là. Damien a raison de dire que, bon, vous avez une certaine longueur d'avance dans l'énergie décarbonée. Ça vous laisse le temps d'y penser. Ce que je trouve, là où je trouve où la France est en retard, c'est dans sa façon de penser justement cette question de la flexibilité de l'énergie de base. Moi, ce que je dis, on est en France complètement obsédé par l'énergie de base. C'est pour ça qu'on tient tant à avoir des réacteurs nucléaires. On a l'impression que si on n'est pas capable d'assurer une production constante et continue, le réseau va s'effondrer. Pourtant, les preuves s'accumulent que ça se passe pas. Et quand je lis vos collègues américains, eux autres, ils écrivent carrément, l'énergie de base, c'est du passé, c'est fini, c'est plus important. Et c'est amusant de voir le contraste avec la France, où on continue à penser que c'est central. Une partie de l'explication de ça, je pense, c'est une nature économique. Vous avez un système qui est nationalisé. Alors, le jeu du prix dans les décisions internes, dans la conception du réseau, joue un peu moins. Et je m'explique, l'énergie de base aux États-Unis est presque toujours vendue sur des contrats à très long terme, 5 ans, 10 ans, même 20 ans. Alors, c'est des contrats qui sont signés à des prix très, très bas. Et souvent, ça repose sur des capacités fossiles qui ont été installées il y a longtemps, dont le coût d'exploitation a augmenté. Alors, vous voyez, là, vous êtes en train de vous avez vendu un contrat sur 20 ans à, je sais pas moi, 6 cents du mégawatt-heure, et pendant ce temps-là, le prix du charbon a explosé, ou le prix de la taxe carbone, et vous produisez à 7 cents, vous perdez de l'argent. C'est dans ce sens-là que l'énergie de base est plus importante. L'énergie qui a de la valeur, c'est celle qu'on est capable de fournir au dernier moment, soit sur des marchés quelques jours à l'avance ou carrément sur le marché spot en temps réel. Et ça, c'est la question du prix marginal de l'électricité. Si vous vendez l'électricité un an à l'avance, vous allez la vendre, je sais pas moi, 5 cents. Si vous voyez que, d'après la météo, que vous allez avoir un trou dans votre production dans 2 jours, vous allez aller sur des marchés acheter des blocs d'électricité. Là, la demande est un peu plus forte. Le prix va peut-être être, je sais pas moi, 7 ou 8 cents, j'en sais, chiffre au hasard. Et si vous arrivez avec un trou de dernière seconde, un équipement a lâché, est tombé en panne, vous devez répondre à un trou, combler un trou dans la production à un délai de quelques secondes, vous allez peut-être payer 50 cents du kilowatt-heure parce qu'il y a peu de ressources qui sont disponibles à ce moment-là et ceux qui les détiennent peuvent vous charger le prix qu'ils veulent. Alors, la dimension économique et ce qu'on appelle le prix marginal, le prix de l'unité qu'on rajoute, la dernière unité qu'on rajoute, est quelque chose d'important dans les considérations. Les calculs sont souvent basés sur le coût moyen de l'électricité, mais en fait, il y a beaucoup de décisions qui se prennent sur le coût marginal. Donc, il faut sortir de cette obsession de l'énergie de base et il faut porter davantage attention à la puissance. Plus qu'à l'énergie. Ici, je pense que c'est pareil chez vous, mais dans le secteur résidentiel, ici, vous demandez n'importe quelle puissance, Hydro-Québec va vous la fournir et posera pas de questions. Je sais qu'en Angleterre, ils commencent à songer d'imposer plus de limites sur la puissance. Vous allez prendre un abonnement, par exemple, où vous allez être limité, vous pourrez pas tirer plus que 5 kWh de courant à la fois, par exemple. si vous voulez un abonnement qui vous permet 8 kWh de courant, vous allez payer un peu plus cher pour l'abonnement. Et vous allez payer la quantité que vous aurez soutirée, la
C'est
quantité
exactement ça
d'énergie,
aussi.
de façon indépendante. C'est une espèce de double facturation. Je ne sais pas chez vous, chez nous, ça fonctionne déjà un peu comme ça dans le secteur industriel, mais pas dans le secteur résidentiel et je pense institutionnel qui tire beaucoup de courant surtout.
En France, ça a toujours existé en fait un abonnement à la puissance et à l'énergie.
Dans le résidentiel aussi?
Sur le résidentiel, bien sûr. Donc tu souscris 3, 6, la plupart des clients sont entre 6 ou 9, 9 kilowatts, enfin 12. Si tu as le chauffage électrique, tu peux aller monter jusqu'à 18, voire 36. Mais ça a toujours existé. Et c'est très lié à l'histoire en France du chauffage électrique et du nucléaire, tout ça. Et donc c'est quelque chose auquel, encore une fois, quand on dit la France, on a des terrains d'avance, ne serait-ce qu'en termes d'appropriation, ces problèmes de souscription de puissance. D'effacement, etc. Ce qu'on n'a pas complètement pour réagir à un de tes points, c'est que moi je me souviens quand j'étais chez EDF il y a 20 ans, on me disait ah non, mais les éoliennes, tout ça, on a fait tous nos calculs, il n'y aura jamais plus que 15-20% de cette énergie sur un réseau. Et en fait, on voit que c'est pas du tout ça que c'est passé, il y a beaucoup de pays qui sont bien au-delà des 15-20%, et parce qu'ils pensaient à l'époque, que une éolienne, quand elle produisait trop, bah, si elle produisait trop, c'est pas quoi en faire, quoi. Le réseau n'était pas fait pour. Après, on s'est rendu compte que les éoliennes, on pouvait les piloter. On pouvait leur dire, vous produisez pas, vous mettez en rideau, point barre, quoi. Donc, il y a des tas de
Vous
choses
mettez
qui
dans
sont
des,
faites.
pardon, vous
On les met
produisez
en rideau, on
comme.
les coupe,
Ouais.
on arrête, on leur demande d'arrêter de produire. Donc, il y a des tas de solutions qu'on n'avait pas vues. Et c'est vrai que c'est dans la tête des gens, ça circule encore. Et pour revenir sur
Ouais.
la question de pourquoi est-ce qu'on est très axé sur la base, c'est aussi, je pense, pas mal lié à l'histoire du nucléaire, avec dans l'idée, nucléaire, c'est gros, c'est en béton, c'est gros cheminée, ça produit, c'est du solide, quoi. En fait, quelque part dans la tête des gens, c'est une usine, quoi. C'est un truc matériel qu'on boit et qui s'arrête pas, qui est comme ça. En fait, ce qu'on constate aujourd'hui, quand on parle de l'éolien en disant, de temps en temps, il va y avoir pas de vent pendant 2 semaines, 1 semaine, où en fait, il n'y aura jamais. Pas complètement de vent, il y aura la production éolienne, mais elle sera 50% plus basse que ce qu'on attendait pendant 2 semaines. Ce qu'on a vu en France, c'est 30% de production nucléaire en moins pendant 1 an. On voit qu'on a eu une crise beaucoup plus importante numériquement sur le nucléaire en France que les crises fantasmées qui arrivent pendant plusieurs semaines sur l'éolien. Et en fait, c'est là que ça doit obliger tout le monde un peu à la modestie dans la manière d'aborder les questions. On a réussi à passer cette crise, les difficultés, avec un énorme coût. Mais il y a, comment dire, toujours des présupposés en France qui sont liés à cette grande histoire, le nucléaire, le monopole et le chauffage électrique en quelque sorte. Mais qui nous donne aussi des atouts pour l'avenir. Et ça, l'enjeu de la transformation, c'est de se dire, finalement, au lieu de se dire, on fait l'un ou l'autre, c'est on utilise l'un comme un atout dans la transition. Quand on parle du cas allemand, c'est assez intéressant. On développe le photovoltaïque des années après lui et on l'achète beaucoup moins cher que les Allemands n'ont pu l'acheter. Enfin, ne serait-ce que ça, il y a un écart phénoménal.
Je pense que c'est un bon mot de la fin. On fera d'autres épisodes et on fera d'autres posts, puisque tous les cinq, on anime LinkedIn. Damien est pas mal sur Twitter aussi, il fait des threads de 50 tweets avec plein plein de graphiques et beaucoup d'infos intéressantes. Donc voilà, quasiment tous les jours, au moins l'un de nous cinq fera un post, un article sur les différents sujets qu'on a abordés ici. Donc n'hésitez pas aussi à vous connecter. Évidemment, si on avait les moyens des pétroliers, on aurait une emprise médiatique supérieure à cela. En attendant, on fait avec ces moyens du bord. Et voilà. Merci à tous les quatre.
Oui, ben merci Cyrus pour la possibilité de s'exprimer.
Tout à fait, à bientôt.
Merci, c'était sympa. Allez, ciao.
Revoir.
Au revoir.